Bien, donc la question, c'est expliciter quoi ? Et là, il me semble qu'il y a deux idées qu'il faudrait poursuivre. C'est quelque chose qui réponde aux besoins des élèves, mais aussi quelque chose qui répond à un besoin des enseignants. Et vous savez, je pense que dans les formations que vous avez préparées, beaucoup d'entre vous démarrent avec les enquêtes nationales, internationales. Hein, Patrick l'a dit, c'est très informatif. Et je vous rappelle qu'au premier regroupement, je vous avais donné l'épreuve de Pearls, l'évaluation des compétences en lecture au CM1. Et je me rappelle que quelqu'un avait écrit sur un post-it, mais au fond, pourquoi évaluer des choses que les enseignants... Non, c'était pourquoi prescrire des choses que les enseignants n'enseignent pas. En l'occurrence, pourquoi évaluer des compétences que les enseignants n'enseignent pas ? Ce qui est une très bonne question. Et la question se pose d'autant plus que c'est finalement l'évaluation de la compréhension, quand elle se fait dans des enquêtes nationales et internationales, elle ne repose pas tant sur les pratiques des maîtres que sur les compétences requises pour comprendre, petit 1, compétences aussi requises pour répondre aux questions. Et donc là, je voulais revenir sur cette tâche de Pearls en vous présentant 2-3 questions et en montrant comment certains élèves passent à côté de l'évaluation, non pas parce qu'ils ne comprennent pas le texte, mais parce qu'ils ne comprennent pas comment on s'y prend pour répondre aux questions qu'on leur pose. La première question, tout s'est passé très vite après que le lièvre a crié un tremblement de terre. Trouve deux mots qui le montrent et écris-les ci-dessous. Et vous avez bon nombre d'élèves qui n'infèrent pas qu'il faut prendre deux mots dans le texte et donc qui vont mettre un synonyme de vite. Donc ils vont écrire rapidement et prestement. Donc en gros, là, vous voyez qu'il y a une idée qu'on nous demande de prouver ce qu'on a compris en allant dans le texte, en trouver la preuve. Ce n'est pas une pratique classique chez les enseignants. Ou bien, celui-là, je ne vais pas le prendre, indique deux moyens pris par le lion pour rassurer le lièvre à la fin de l'histoire. Vous voyez qu'ici, il va falloir retourner au texte pour prouver une réponse qui est donné là, c'est le lion a trouvé deux moyens, trouve-les dans le texte, mène l'enquête, ou bien, penses-tu que le lion aimait le lièvre, que se passe-t-il dans l'histoire qui te le démontre ? Et alors celle-là, les sentiments du lièvre changent pendant l'histoire, explique comment. Vous vous rappelez, j'avais attiré votre attention sur l'importance des états mentaux dans la compréhension. Au début de l'histoire, le lièvre se sent... Il faut dire comment, parce qu'il faut dire comment, et ça n'est pas écrit dans le texte, il faut l'inférer. Donc vous voyez qu'ici, on demande une... Et si je prends cet exemple-là, on peut trouver exactement la même chose dans PISA pour les élèves de 15 ans, mais si vous regardez les questionnaires de biologie, d'histoire, de géographie, vous avez bien souvent des élèves qui connaissent leur leçon, qui ont appris leur leçon, et qui vont être mis en difficulté parce qu'ils ne savent pas comment on s'y prend pour construire des réponses qui conviennent à l'enseignant. Et voilà pourquoi là, j'ai fait une petite liste d'idées qui serait comment on enseigne les procédures et on est bien là sur le pendant et pas sur l'avant et pas sur l'après, c'est comment je vais enseigner explicitement toutes les manières de faire qui vont te permettre de répondre aux exigences scolaires. Il y a très souvent des exercices dont on postule que, à force d'en faire, ils vont extraire les procédures, à force de faire des questionnaires de lecture, ils vont finir par comprendre comment on fait. Eh bien, ce dont on s'est aperçu, c'est que oui, c'est vrai pour le littéral, mais dès lors qu'il y a de l'inférentiel, alors, eh bien, tous les élèves n'arrivent pas à extraire la procédure qui permet de le faire. Là, j'en ai dressé une liste, je ne vais pas la lister en entier, mais c'est le travail qu'on mène dans Lectorino et Lectorinette avec les élèves de cycle 2, CE1, CE2, eh bien, on va avec eux, et c'est pour ça que c'est là que je dis que les élèves participent à l'explicitation, et c'est ce que Jacques disait tout de suite. Quand on travaille, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun ? Eh bien, le fait de bien lire les questions, de les reformuler dans ses propres mots, et de se demander si la réponse est dans le texte ou s'il faut la construire, c'est déjà une aide. Ou bien... Pour répondre aux questions en pourquoi, il faut raisonner, en prenant à la fois appui sur les informations du texte et ce qu'on sait déjà. Et là, vous voyez toute une liste de procédures. Évidemment, je peux la laisser sur le PowerPoint et vous le donner. Mais toute une liste de procédures qui vont être suffisamment précise pour répondre aux besoins des élèves et suffisamment généralisable pour être utilisée en biologie, en histoire et en géographie, parce qu'elles ont ce côté transversal ou transdidactique qui permet de centrer l'attention des élèves sur une chose, c'est si tu passes à l'acte avant de t'être interrogé sur la manière dont tu vas t'y prendre pour réaliser la tâche scolaire, bien souvent, il va manquer un grand morceau. Et donc, vous voyez comment là, j'insiste beaucoup sur cette idée que les élèves sont avec l'enseignant, partie prenante de l'explicitation des procédures qui permettent de traiter les tâches scolaires. Et pas seulement des choses notionnelles. Oui, je l'ai mis ici. Lectorino et lectorinette, tous les droits d'auteur vont dans une organisation non gouvernementale.
On enchaîne sur les objets.
Sur quels objets ? Alors, bon, les premiers objets, me semble-t-il, à la fois parce que ce sont les premiers dans l'ordre des études, c'est la rencontre avec les fondamentaux. Donc, pour rebondir sur ce que disait Sylvie, ces objets d'apprentissage qui sont objets d'apprentissage mais qui ont vocation à devenir outils au service de tous les autres, comme la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'importance de dévoiler là, les modes de traitement adéquats, que ce soit des écrits ou des écrits narratifs, documentaires, mais on pourrait penser la même chose avec les énoncés de problèmes. La question de comprendre, saisir ensemble, aider les élèves à faire des mises en relation signifiantes. Mais ils font parfois des mises en relation, mais qui ne sont pas forcément adaptées, et dont le débat dans la classe va permettre de juger de la pertinence de ces mises en relation. Et on voit bien comment en lecture, les jeunes élèves ont à agréger des éléments inframots, puis à agréger les mots entre eux, puis des compétences à l'identification des mots, aux compétences lexicales, puis aux compétences textuelles. On voit bien qu'à chaque fois se pose le problème pour les élèves de comprendre la façon dont on peut co-construire au fur et à mesure de l'entrée d'un texte une signification. Et encore une fois, le travail sur les énoncés de problèmes mériterait le même type de traitement. Donc, compétences sur les apprentissages fondamentaux. Les deuxièmes objets sur lesquels ça mérite autant des explicitations, c'est toutes les notions et concepts. Il me semble que c'est important de déplier le processus d'élaboration conceptuelle. Autrement dit, peut-être que l'espace de la classe devrait être l'espace où il y a mise en scène du débat de preuve. Pourquoi dis-tu ce que tu dis ? Et on va discuter des différentes propositions, et la pluralité des avis va obliger chacun à justifier. Et nous allons ensemble, dans un va-et-vient entre la pensée des autres et l'objet à traiter, le problème à résoudre, progressivement élaborer, co-élaborer la solution la plus adéquate, pertinente au problème posé. Donc c'est à la fois la mise en scène du débat de preuve et, juste quand même pour y revenir, tout le changement d'orientation que nécessite, une fois l'activité terminée, ce moment de ressaisie qui peut s'amorcer évidemment en cours de séquence selon les objets, mais qui est cette phase un peu importante où on va décontextualiser, formaliser, conceptualiser, c'est-à-dire passer à un degré supérieur, à décoller de la tâche pour parvenir au concept, à la saisie de la notion. Troisième objet possible, c'est ce qu'on pourrait appeler l'infradidactique, dont une partie se retrouve aussi dans le didactique. L'infradidactique, on pourrait dire, c'est tout ce qui est convoqué d'un bout à l'autre de la scolarisation, mais sans jamais être travaillé ni réfléchi dans l'espace scolaire. Alors, je ne prends que deux de ces objets, peut-être l'inventaire resterait à faire. La copie, on voit bien, ça a été évoqué, que la copie est convoquée depuis la grande section de maternelle, mais va évoluer progressivement et va à la fois être la préhistoire de l'écriture, mais aussi l'indispensable socle pour la prise de notes. Et on voit bien qu'y compris chez les étudiants, les prises de notes peuvent aller d'une prise de notes extensive et pour les uns, avec cette difficulté à saisir l'ensemble du discours professoral, d'autant plus difficile quand le professeur est très prolixe et met des incises et a quelque chose qui est un peu déconstruit avec toutes ces incises. Quand d'autres étudiants, eux, sont sur une prise de notes qui fait un traitement au fur et à mesure de l'information, l'organise, le synthétise et le structure et le travaille au fur et à mesure. Évidemment, les incidences des uns et des autres ne vont pas être minimes sur ce qu'on va pouvoir faire de ces notes et du rôle qu'elles auront joué dans l'intégration progressive et la compréhension de ce qui est en train de s'énoncer. Mes copies, dont les travaux que Sylvie a pu mener, que j'ai pu aussi explorer auprès des élèves, montrent bien que, bien qu'ils aient été souvent soumis à la copie, on peut retrouver des élèves au collège et peut-être encore au-delà qui sont dans une copie lettre à lettre, qui n'est pas du tout une copie comme peuvent en parler certains élèves qui sont, quand on les interroge à l'issue de l'école élémentaire pour certains, en mesure d'expliquer que quand ils étaient petits, ils traitaient la copie comme c'était un dessin, puis j'ai compris que c'était des mots, raconte un élève, puis ensuite j'ai pu, comme je connaissais des mots, j'avais plus besoin de regarder, je copiais des mots entiers, et puis maintenant, comment tu fais? Eh bien, je lis. Et puis je copie plusieurs mots à la fin, plusieurs mots à la fois. Et comment ça? Et l'élève déplie, mais en fait, je copie des choses qui veulent dire quelque chose, quoi. Autrement dit, ils sont en train de nous expliquer qu'ayant routinisé ce qui appartient à la calligraphie, ils sont complètement mobilisés sur le contenu de ce qui est à copier et profitent du temps de copie pour poursuivre l'appropriation du contenu. Quand les autres, ayant beaucoup copié, sont dans l'incapacité de pouvoir nous dire ce qu'ils ont copié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, je ne sais pas à quelle mesure ça ne peut pas aller, ce travail de copie sur le versant didactique. Autre élément didactique, apprendre une leçon. Là aussi, convoquer du bout à l'autre du système scolaire. Quels sont les espaces où on s'arrête pour réfléchir avec les élèves sur que faut-il faire pour. Vous voyez, on a quand même de plus en plus les études de Patrick Rayou, de Séverine Cacpo sur que deviennent les commandes passées par l'école à la maison. Et on a de belles surprises sur ici une rescolarisation, ici une déscolarisation de ce qui était passé comme commande de lecture plaisir. Mais tous les malentendus possibles sur interprétation qui font que le temps de travail à la maison, au lieu d'être un temps d'appui aux apprentissages qui ont démarré dans la classe, sont plutôt quelque chose qui vient les contrarier, se percuter, etc. Voilà. Or, il y a là aussi de belles perspectives. Surprise des élèves, j'ai souvenir d'un travail mené avec des élèves de SECPA, avec la surprise de voir que certains élèves explique apprendre par cœur à la maison tous les mots. Hein, et un élève nous explique, j'apprends 10 mots par cœur, puis ensuite j'en rajoute un, je récite, puis un deuxième, je récite. Et évidemment, ses camarades de classe lui disent, mais c'est fou, tu dois y passer beaucoup de temps. Lui, il confirme, il y passe plus de 2 heures. Et le problème, c'est que ces pervers de professeurs posent au moment du contrôle, pas toujours ce qui correspond à une exacte restitution mémorielle. Et donc, les réussites ne sont pas au rendez-vous, c'est quand même profondément injuste. Avec des élèves qui finissent par intérioriser cette idée de leur propre incapacité, puisque passant autant de temps sur les tâches sans parvenir à avoir des effets efficaces. Quand les voisins, il est surprenant parce qu'il n'y passe qu'une demi-heure, mais lui, à chaque fois, il a des bonnes notes. Hein. Donc, sauf que le voisin explique qu'il fait autre chose. Et les élèves, quand on les interroge sur comment faites-vous pour apprendre votre leçon, si certains sont, et vous verrez leur pourcentage est absolument étonnant au niveau collège et lycée, quand d'autres élèves expliquent que, face par exemple une leçon de géographie où il y a beaucoup de travail à faire, ils ferment le livre, ferment le cahier et essayent de restituer le plan de la leçon. quand d'autres nous expliquent qu'ils font une fiche récapitulative, quand d'autres encore font une synthèse, quand d'autres en science font un schéma, quand d'autres nous disent surligner les mots importants, rechercher ce qui reste un peu obscur. Bref, poursuivent à la maison le travail intellectuel engagé à l'école, en essayant d'adapter pour eux-mêmes des outils qui font synthèse, aident à l'intégration durable et vont permettre évidemment une efficience beaucoup plus importante des apprentissages. Voilà. Donc, sur les fondamentaux, sur notions et concepts, sur on va appeler l'infradidactique, et je reviens sur ce qui a déjà été évoqué, et du coup, pour cibler ces objets, on voit bien qu'il y a la nécessité d'une analyse de la nature de ces des difficultés, d'un repérage des déraillements de la pensée, des malentendus socio-cognitifs, du décalage entre ce que les élèves croient qu'on attend d'eux, croient devoir mettre en œuvre pour réussir. On n'arrête pas d'être frappé par l'immense travail que certains élèves fournissent. Or, l'intelligence de l'humanité et de chacun, donc des êtres humains, consiste à rechercher la solution la plus pertinente et la plus économique. Autrement dit, c'est la stratégie souvent de la recherche du moindre effort pour résoudre le problème posé. Et la recherche du moindre effort, c'est de se trouver des outils et des stratégies pour qui sont à la fois fiables et en même temps pertinentes. Donc, si l'échange est organisé dans la classe autour de « je vais vous apprendre comment vous en sortir avec de moindre effort », ça va intéresser les élèves. Sauf que, ils vont bien voir que ça sollicite leur intelligence, mais déjà, quand on sollicite leur intelligence, on leur signifie qu'on est en pleine croyance de leur capacité à y parvenir, et cela même participe, hein, etc. etc. Hein. Il me semble que tout ça a, quels que soient les objets sur lesquels ça porte, a des incidences, ce souci d'explicitation sur la construction d'une posture d'élève, d'étudiant, au sens premier du terme, de celui qui étudie, l'importance de développer des capacités réflexives et développer l'autonomie intellectuelle, la capacité d'autorégulation de ses conduites d'apprentissage. Parmi trois points qui me semblent importants à faire comprendre aux élèves qui nous préoccupent, cette idée que pour entrer dans l'activité, il faut différer le faire. On voit bien, les uns sont dans une posture d'attente, les autres foncent sans attendre. Tout ce qu'on a expliqué sur les amonts de l'activité, on ne commence pas avant d'avoir vu ce qu'il convenait de faire et pourquoi on va le faire, d'éclaircir ça. L'analyse de la situation préalable, la mobilisation des acquis antérieurs, enfin tout ce que je ne reviens pas là-dessus. Le deuxième point qui me semble important, c'est sur l'idée que faire cours ne suffit pas à faire classe au sens propre. C'est-à-dire comment constituer la classe grâce à ça comme intellectuel collectif, collectif solidaire d'apprentissage. La construction par les élèves sur les objets que le savoir rompt avec la croyance, parce que les échanges peuvent dans la classe être pour les uns, chacun énonce sa vérité sans pouvoir en décoller, face aux problèmes à résoudre. L'école nous apprend que tout ne peut pas être soutenu et le débat de preuves sanctionne la pertinence des propositions. Hein. Et il faut bien, en matière de connaissances, il faut bien se rendre à la raison. Là encore, apprendre en son sens premier, hein, se rendre à la raison. Découvrir, grâce à l'univers scolaire, la valeur opératoire des concepts, c'est un petit clin d'œil à Vygotsky, et la portée formative des processus qui les constituent, qui révèlent des capacités insoupçonnées pour les élèves. Troisième chose qui me semble importante dans la construction de la posture d'élève, c'est que réussir la tâche ne suffit pas à comprendre ce qui en est au cœur. À tel point même que l'apprentissage intéressant à l'école, c'est que je peux ne pas avoir réussi la tâche et pourtant, néanmoins, investir et réussir avec succès l'activité. Dès lors que je reste présent au moment où se déplient les façons de faire des uns et des autres, où je comprends pourquoi ma pensée a déraillé dans une mise en relation inadéquate, et où je saisis, bien que je n'ai pas réussi la tâche, ce qui était au cœur de l'activité, je le saisis suffisamment pour pouvoir en garder trace lorsque je rencontrerai une activité de même nature. C'est toute l'importance de cette phase d'institutionnalisation, de représentation. Hein. C'est Vallon qui explique ça, qu'on n'a encore pas tout à fait été instruit par l'expérience si on n'a pas tiré leçon de l'expérience. Et ça, ça passe par la représentation qui est soit par une synthèse du noyau, mais c'est passé par un schéma, un tableau récapitulatif, etc., mais qui va donner valeur générique à un savoir enfin transférable.